BFM Business. L'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag. Erwan Morris.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Happy Boulot, comme tous les week-ends, l'émission qui veut vous rendre plus heureux au travail. Aujourd'hui, nous recevons une DRH qui ose tester toutes les nouvelles tendances que de rares entreprises acceptent de mettre en place. Semaine de 4 jours, télétravail, horaire à la carte, nous allons retrouver Stéphanie Sebag-Signoret, la DRH de Saretech. Dans notre focus du jour, nous parlerons du recrutement sur les réseaux sociaux. Avec nous, le directeur commercial de Proman, Mickaël Voirin, et Marie Hombrouck, fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Executive. Vous ferez votre propre avis pour savoir si c'est une bonne ou mauvaise idée. Et puis en fin d'émission, dans notre labo RH, nous testons la plateforme avissalarié.com qui permet aux candidats de se renseigner sur une entreprise grâce aux avis laissés, avis qui sont vérifiés. Nous serons avec son fondateur Nicolas Marette. Voilà le programme, on espère que ça vous plaît. Ça commence tout de suite avec l'entretien de la semaine.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'entretien DRH.
Et la pratique du télétravail a explosé avec le Covid. Plus récemment, la semaine de 4 jours a commencé à se développer dans les entreprises en France. On voit bien que les employeurs sont encore frileux malgré tout sur ces sujets-là. Et bien pour le coup, ce n'est pas votre cas, Stéphanie Sebag-Signoret. Bonjour.
Bonjour Erwan.
Merci d'être dans Happy Boulot avec nous
Je
ce week-end.
Je vous en prie, c'est un plaisir.
Un plaisir partagé. Vous êtes la DRH de Saretech.
Oui.
Spécialiste de l'expertise après sinistre. Vous faites aussi de la prévention, peut-être en 30 secondes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler très concrètement ce que fait votre entreprise?
Bien sûr. Donc, Saretech, en fait, est un groupe de 1800 collaborateurs implantés sur tout le territoire national et qui gère de façon globale les sinistres que les lésés peuvent être amenés à connaître tout le long de leur vie. C'est-à-dire que nous faisons de la prévention, nous gérons les sinistres pour le compte d'assureurs, nous menons des expertises, nous gérons l'indemnisation et éventuellement les réparations.
Là, avec l'actualité du moment, enfin, c'est pas notre sujet, mais vous avez aussi un travail à faire, j'imagine, avec les émeutes, les commerces qui ont été dégradés.
Oui, tout à fait, les émeutes, les commerces dégradés, mais aussi ce qu'on appelle les arrêtés de catenates sécheresse, les catastrophes naturelles liées à la sécheresse, qui nous sollicitent énormément, puisque très massivement pris sur le territoire français.
Bien sûr. Donc ça, c'est Saretech.
Oui. Saretech.
C'est votre entreprise dont vous êtes DRH. Et vous, vous avez mis, j'ai envie de dire, un laboratoire, carrément, un laboratoire d'innovation de ressources humaines parce que vous expérimentez.
Oui.
Vous mettez en pratique. Il y a beaucoup de choses. On va peut-être commencer avec ce qui parle le plus, probablement, à nos auditeurs, téléspectateurs, le télétravail, parce que ça, pour le coup, c'est arrivé dans de très nombreuses entreprises. Mais vous, vous allez très loin dans le télétravail.
On va très loin dans le télétravail. En fait, je pense que ce qui est important, c'est de recontextualiser un petit peu les choses, si vous me le permettez,
allons-y.
Erwan. Tout simplement, depuis, parce que nous sommes très heureux, d'ailleurs, depuis quelques semaines maintenant, nous sommes entreprise à mission. Entreprise à mission, votée à 91% de nos collaborateurs, actionnaires.
Et quelle est votre mission?
Alors, notre mission, notamment dans nos objectifs statutaires, c'est de proposer, d'imaginer, de penser ensemble des collectifs de travail différents, d'une part, qui permettent la collaboration, et d'autre part, des formes d'organisation du travail qui permettent de s'adapter au mode de vie choisi de nos collaborateurs.
Ben là, vous êtes en plein dans en fait, ce qu'on recherche aussi aujourd'hui dans les entreprises, du bien-être.
Du bien-être, de l'équilibre, de l'organisation du travail qui s'adapte à nos besoins, contraintes, envies personnelles. D'où le télétravail, effectivement. Ouais. Première mesure mise en place et prise par Saretech.
Et on va jusqu'où alors dans le télétravail avec Saretech?
80% à l'année, Erwan.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que vous pouvez faire 10 mois de télétravail et 2 mois de présentiel.
Et on s'organise comme on veut ou est-ce qu'il faut se coordonner quand même avec ces équipes? Comment ça se passe?
On s'organise comme on veut, de façon collective. Chez Saretech, ça c'est un deuxième dispositif qui a été mis en place, c'est qu'on travaille en autonomie collective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des équipes sont constituées sur le territoire national, n'importe quoi, ça peut être une équipe qui englobe les collaborateurs de La Rochelle et de Clermont-Ferrand, ceux-ci forment une équipe et entre eux, ils passent un contrat de fonctionnement et le manager est uniquement là pour veiller à ce que le service délivré par cette équipe au regard de ce contrat de fonctionnement soit au rendez-vous. Mmh. Tout simplement.
Les managers aussi ont droit du télétravail.
Bien
Est-ce
sûr.
Que vous, en tant que DRH, vous
J'ai
faites aussi
droit
du, télé...
à du télétravail.
Et vous arrivez donc en manageant. Et combien de salariés chez Saritech?
On est un groupe de 1800 collaborateurs. 1800... Un peu plus de 1800 ouais. collaborateurs, oui, aujourd'hui.
1800, plus de 1800 personnes. Est-ce que quand on est dans la direction, c'est facile aussi de s'appliquer ces règles? Ou est-ce que bon, ça reste encore un peu l'exception? Est-ce que vraiment vous faites 80% de votre temps télétravail?
Alors, il y a des très croyants et peu pratiquants. Il y a des croyants pratiquants en télétravail. Moi, je fais partie des gens qui pratiquent parce que je trouve que pour certaines tâches, il est important effectivement de pouvoir s'isoler, voilà, tout simplement. Et puis, il y a des tâches qui sont à haute valeur ajoutée, qui sont de l'animation d'équipe, de maintenir le lien social, de maintenir le lien collectif. Et là, effectivement, il est important de recréer ce lien collectif au sein des bureaux, mais pour faire autre chose que de travailler,
Bien
pour
sûr.
Partager.
Et vous avez... le recul déjà nécessaire pour voir si ça fonctionne ou s'il va falloir réadapter peut-être à un moment donné?
Alors, ça fait 2 ans en fait que notre accord est mis en place à hauteur de 80%. Ça marche. Il doit prendre fin normalement à la fin de l'année et on va le renouveler tel quel parce qu'on pense qu'effectivement, nos collaborateurs l'utilisent à bon escient.
Donc, ça veut dire qu'ils en sont aussi satisfaits?
Ils en sont très satisfaits.
On va plus loin parce que le télétravail, aujourd'hui, ça parle vraiment à tout le monde. La semaine de 4 jours, moins. Parce que on en parle beaucoup, mais on la voit moins arriver. C'est plus du côté de nos voisins britanniques où ils sont en avance sur nous. Bah vous aussi, vous testez la semaine de 4 jours, c'est ça, hein?
On teste la semaine de 4 jours qui va être déployée incessamment sous peu, qui est en train d'être déployée, en fait. L'idée, en fait, encore une fois, c'est comme le télétravail, c'est pas d'imposer un quota, c'est pas de dire c'est soit la semaine de 4 jours et puis rien d'autre. En fait, l'idée, c'est de laisser les collaborateurs dire d'un mois sur l'autre, je veux travailler 4 jours semaine, 4 jours et demi ou 5 jours. Et tous les mois, on change.
En termes d'organisation, pour vous, pour les ressources humaines, c'est pas devenu un énorme casse-tête entre le télétravail, la semaine de 4 jours, un mois je fais 4 jours, un mois je fais 5
Non, c'est pas devenu un casse-tête dans la mesure où ça s'anticipe. Hein. C'est-à-dire que les collaborateurs déjà le font en bonne intelligence entre eux parce qu'ils travaillent en autonomie collective. Hein. Comme je disais, c'est ces équipes qui passent un contrat de fonctionnement. Ça se fait en bonne intelligence, ça se fait en prévenant, c'est-à-dire que nous avons un délai de prévenance d'un mois.
Donc, voilà. On s'y prend pas au dernier moment.
Non. Ouais. Donc, pour le mois, par exemple, de mars, je décide dès le 1er janvier. Voilà. Donc, d'une part. Et d'autre part, j'ajuste également mes horaires, puisqu'on a mis en place, en plus de ces 4 jours, 4 jours et demi, 5 jours, des horaires à la carte.
Bah, ça, c'est encore un truc incroyable. C'est quoi, ça, les horaires à la carte? C'est-à-dire qu'on n'est plus forcément aux 35, aux 37, aux 38 heures?
Si. On est aux 35 heures.
Oui.
Voilà. Mais on choisit ses horaires en fonction de ses impératifs.
Donc on peut arriver très tôt le matin, s'absenter 4 heures à la mi-journée.
Il y a 19 types d'horaires proposés.
Ah oui.
Et le collaborateur choisit.
Et il choisit et ensuite il s'y tient toute l'année ou il
non,
peut réadapter.
Un mois. D'accord. Dans le mois, il choisit 4 jours, 4 jours et demi, 5 jours et son horaire de travail.
Là, vous offrez quand même une souplesse inouïe, inégalée, je pense. Est-ce que vraiment, vous parlez avec d'autres DRH qui mettent en place aussi ce genre de pratiques? J'ai l'impression
alors,
que vous êtes quand
peu.
Même vraiment
oui,
pionnier
oui,
là-dedans.
Oui, on a très peu. Alors, c'est aussi lié, je pense que ce qui est important aussi d'avoir à l'esprit, c'est que Saritech appartient à ses collaborateurs. Saritech a fait l'objet d'un rachat d'entreprise, il y a plus de 45 ans maintenant. Ce sont nos collaborateurs qui sont actionnaires du groupe, et uniquement des collaborateurs qui sont actionnaires du groupe, et donc qui sont effectivement en balance et en demande d'innovation sociale et sociétale.
Donc ce sont eux qui décident aussi.
Ils décident aussi, bien sûr.
Est-ce que ça rend l'entreprise plus attractive? Est-ce que
ça
vous avez des facilités à recruter?
J'ai des facilités à recruter, j'ai surtout des facilités à conserver. On a un turnover qui est quasiment nul.
Ah oui.
Voilà. D'une part. D'autre part, on recrute forcément, puisque nous sommes en pleine croissance. Donc l'année
250
dernière.
250 CDI cette année?
Oui, 250 CDI cette année.
Et là, vous en avez recruté combien? Vous en cherchez encore combien de personnes d'ici la
On recherche à peu près encore 60 personnes.
Ok. Voilà. Bon, rapidement, il nous reste 20 secondes. On va peut-être passer une annonce. Dans ce
oui,
cas-là,
bien
quels
sûr.
Sont les profils? Sur quels profils? Comment on postule?
Alors, tous les métiers de la relation client. Voilà, chez Saritech, on a vraiment une philosophie, c'est qu'on vient avec un état d'esprit et on vous forme. Nous avons des formations sur mesure pendant 3 ans à tous nos métiers. Donc, sens de la relation client d'une part, d'autre part, tous les métiers de l'expertise. On est tous experts de quelque chose. Voilà. Donc, que ce soit dans la construction, en agro, en agri, en veto. Enfin, voilà. Donc,
Et il y a aussi de la, je voyais en préparant l'interview, mais de la progression. En interne, on peut aussi
évoluer et devenir
expert quand on est
exactement, le métier d'expert n'existe pas en tant que tel. Donc on a une compétence technique et Saritech vous permet de devenir expert dans cette compétence technique-là.
On postule comment? Sur le site de Saritech?
Saritech Recrute.
Voilà. Bon,
le site carrière qui permet effectivement de nous rejoindre.
Un grand merci à Stéphanie Sebastien.
Merci à vous Erwan.
Merci d'être venu nous parler tout ça des RH de Saritech.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Le sujet sur la table.
Question aujourd'hui, est-ce que recruter sur les réseaux sociaux, c'est une bonne ou une mauvaise idée? On va en parler avec nos invités que j'accueille, le directeur commercial de Proman, Mickaël Voirin, bonjour.
Bonjour.
Proman, groupe d'intérim, vous êtes assez actif sur le recrutement sur les réseaux sociaux, on va en parler. Et face à vous, la chasseuse de tête Marie Hombrouck, fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Exécutif, bienvenue.
Bonjour. Merci.
Alors vous aussi, il y a un intérêt à recruter sur les réseaux, mais bon, vous serez peut-être un tout petit peu plus nuancé par rapport à l'invité qui est en face de vous. On va discuter de tout ça. Mickaël Voirin, d'abord, comment est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux dans le recrutement?
Avant de dire comment, je veux dire pourquoi. L'intérêt aussi, c'est bien sûr d'aller accroître notre notoriété sur l'ensemble du réseau français. Également de développer, on va dire, l'attractivité des candidats. Et puis bien sûr d'aller capter une nouvelle génération qui utilise ces réseaux sociaux. Mais au-delà des réseaux sociaux, ça reste un outil pour recrutement et bien sûr au sourcing.
Et aujourd'hui vraiment c'est devenu significatif l'utilisation des réseaux sociaux dans le recrutement, ou ça reste anecdotique?
Non, c'est significatif.
Ouais.
Depuis l'après-pandémie, ça s'est développé pour pouvoir communiquer plus rapidement. On s'aperçoit quand même que les jeunes générations sont au quotidien sur ces réseaux. Donc ça permet de donner cette attractivité, de proposer des offres, mais ça n'enlève pas non plus derrière le recrutement, qui est les ressources humaines, le contact et le recrutement auprès des candidats et des futurs salariés.
Mais on recrute qui alors sur ces réseaux?
Alors, ce qui est important de dire, c'est qu'on a à peu près 80% de la population active qui est présente sur les réseaux sociaux. Donc nous, en tant que chasseurs, évidemment, les réseaux sociaux sont un outil qui est très très important pour nous. La difficulté, c'est qu'on va peut-être pas toujours l'utiliser de la même manière. C'est-à-dire qu'en fonction de la population que vous allez recruter, vous n'aurez pas la même utilisation.
Moi, n'y connaissant rien au recrutement sur les réseaux, j'aurais tendance à dire qu'on va plutôt recruter des jeunes, déjà. Jeunes profils, non?
Alors, effectivement, la fracture générationnelle va emmener à recruter plutôt des jeunes. La génération où, pour eux, toute la dimension est native sur toutes ces questions digitales, évidemment, vont aller plus facilement aller chercher des informations. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que la moyenne d'âge des utilisateurs de LinkedIn en France, c'est 44 ans.
Mais LinkedIn, est-ce que c'est pas un petit peu à part? Est-ce que c'est pas l'exception? Parce que LinkedIn, typiquement, c'est quand même le réseau social justement professionnel, donc on s'en sert aussi pour se faire recruter. Je pense plutôt à Instagram, TikTok, Facebook. Comment vous regardez aussi
juste
ça?
Juste pour compléter, c'est vrai que LinkedIn, qu'on va adapter notre communication en fonction du réseau. C'est sûr que LinkedIn, qu'on va plutôt
communiquer
auprès des RH, on va communiquer sur des personnes qui sont en CDI, sur une population, comme vous le disiez, qui est plus de 45 ans. Par contre, après, derrière, quand on va plutôt communiquer sur des réseaux comme Facebook ou Instagram, on va bien sûr avoir un ton professionnel, mais avec un côté humoristique. On va s'adapter, bien sûr, à la nature du réseau.
Bon, recruter sur LinkedIn, je pense que c'est une évidence aujourd'hui. Enfin, voilà, on poste les annonces, on postule sur LinkedIn, on partage son CV, etc. Est-ce que c'est aussi intéressant sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok?
En préparant l'émission, il y a un chiffre qui m'a un peu fait tomber de ma chaise. Il y a une étude IFOP qui date de l'année dernière qui a été faite. 10% des gens qui ont répondu à cette étude ont dit qu'ils seraient prêts à se faire recruter sur Waze. Waze, pour vous donner...
Donc un GPS.
Ouais, c'est un GPS. Okay. Donc moi, personnellement, je suis assez dubitative. On va pas les recruter sur Waze. Après, je pense que effectivement, comme vous l'avez indiqué, en fonction du réseau social, on pourra s'adapter. Il y a une campagne qui a été assez réussie, d'ailleurs, de la société Orpi, où ils ont voulu sensibiliser les jeunes à qu'est-ce que le métier de l'immobilier, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi un agent immobilier. Et là, ça a permis de donner de l'information. Donc dans ce cadre-là, ça peut avoir un sens.
Avec des formats différents, en fait. C'est-à-dire, c'est pas une annonce écrite noir sur blanc, mais de la vidéo, des explications, des interviews. Fait, ça, on fait ça aussi beaucoup sur Welcome sur To The Jungle. Ouais. C'est des nouveaux formats aussi pour attirer ces nouveaux talents. Sur cet exemple de Waze, Mickaël Voirin.
Alors, c'est vrai, nous on a communiqué sur Waze. L'idée, c'est pas non plus d'aller recruter. Ils n'ont pas été recrutés par Waze. Ouais. En tout cas, ils ont identifié une agence d'emploi, Promen, qui proposait des emplois. Donc, ils ont pu cliquer pendant leur passage, en tout cas, sur
Alors,
sur
ça
leur
se passe
parcours.
Comment on ouvre l'appli Waze, on est en train de conduire.
On voit un petit logo, comme vous voyez,
et au feu, parce que c'est pas pendant qu'on conduit qu'on clique.
Non, on va cliquer, ça va bien sûr venir sur l'agence d'emploi de proximité et ouvrir les offres qu'on a.
Il y a
5000 offres en France d'emploi.
Et est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous avez des données qui permettent de dire oui,
il y a eu des remontées. Pour vous dire, on a plus de 25 millions de vues sur l'ensemble des réseaux pour le groupe Promen. On a 400 agences en France et 45 000 intérimaires avec plus de 100 000 candidats qui ont candidaté. Quand je dis candidaté, ça reste un outil pour pouvoir venir voir nos recruteurs. Mm-hmm. Parce que la finalité,
c'est pas pour faire recruter directement.
Bien sûr, c'est le savoir-être, c'est les compétences où là, c'est repris bien sûr par nos agences et nos consultants recrutement.
Convaincu ou pas, du coup, Marion Brooke, vous étiez dubitative.
Non, mais c'est vrai que nous, on recrute plutôt des fonctions exécutives, donc des DRH, des directeurs juridiques. Ouais. Je ne pense pas qu'un directeur juridique va chercher un job au feu rouge. Après, si vous voulez, nous, il y a quand même toute une question de confidentialité des postes qui fait qu'on est toujours sur une crête entre donner des informations, ne pas donner des informations. Et nos clients, en général, ne veulent pas forcément être identifiés comme en train de rechercher tel poste.
Bien sûr.
Donc, nous, les réseaux, on les utilise, mais il y a toujours cette réserve de qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on doit dire. On doit toujours avoir ça en tête.
Mais donc au-delà de l'âge, en fait, vous serez peut-être d'accord pour dire que c'est pas tant l'âge, la génération, ça va être plus le profil. Les exécutifs vont pas postuler sur TikTok. En revanche, peut-être des plus jeunes, mais des plus juniors,
moins jeunes, hein, qui utilisent en tout cas soit ces plateformes digitales, ou soit ces réseaux. Ça permet aussi de faire découvrir. Hein, on parle de TikTok. Oui. Nous, on a fait beaucoup de TikTok pour faire découvrir un métier, donner envie aussi une population qui ne connaissait pas le métier. On travaille beaucoup avec nos clients, c'est-à-dire qu'on fait de la co-construction sur ces TikTok pour donner une attractivité, parce qu'on aurait certains bassins d'emploi qui sont très tendus.
Vous rendez compte rapidement qu'avec l'utilisation de TikTok, par exemple, dont vous parlez, vous arrivez à toucher du monde, parce qu'on voit très vite si les vidéos deviennent virales ou pas.
Bon, on va s'adapter à la tendance de TikTok. Hein. On est quand même dans des propositions d'emploi pour un métier, pour un job, pour de moyenne, courte ou longue durée. Après, pour donner quelques chiffres, sur TikTok, c'est pratiquement 10 millions de vues sur les TikTok qu'on a fait depuis le début de l'année, avec derrière pratiquement plus de 25 ou 30 000 CV et 4 000 personnes à l'emploi.
Marion, comment vous regardez ça? Vous faites en fait du recrutement tous les deux, mais c'est des métiers différents. Ces tendances-là et ces nouvelles manières de recruter?
Alors, ça répond à un besoin qui est aujourd'hui la difficulté de l'attractivité des candidatures. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, la guerre des talents, la difficulté de faire venir des talents. Donc, on essaie d'innover. Il y a des choses qui peut-être... Ce qui est dur à dire, c'est qu'on a très peu de recul parce que tout ça, c'est récent. Il y a peut-être des choses qu'on va garder, peut-être des choses qu'on va pas garder. Néanmoins, ça vaut quand même le coup d'essayer. Pour moi, toutes ces grandes campagnes sont intéressantes quand on fait du recrutement de candidats. Quand on est sur de la qualité et quand on est sur des petites quantités, c'est beaucoup plus compliqué de l'utiliser, cet outil. Donc pour nous, c'est intéressant pour faire connaître une marque d'un client, pour faire évoluer la marque employeur, mais après sur du très 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 précis, c'est plus compliqué à utiliser.
Et est-ce que les réseaux sociaux eux-mêmes s'adaptent pour justement être un recrutement compatible, pour qu'on puisse justement mettre des offres?
Bien sûr, on va faire des offres personnalisées, on va acheter des mots-clés, ça s'appelle Facebook Ads ou Instagram Ads, où là bien sûr on va avoir des moteurs de recherche où on va retrouver plus rapidement en tout cas l'emploi, donc bien sûr ils s'adaptent parce que c'est un vecteur de communication qui est de plus en plus fort. On a une nouvelle génération, et moi je peux en parler, j'ai des enfants qui ont 21 ans, ça fait depuis la préadolescence qu'ils sont sur les réseaux, c'est devenu leur quotidien. Donc il y a un moment peut-être, quand ils auront 45 ans...
Vous aidez à recruter des jeunes ou pas, avec leur expérience?
Comment?
Ils vous aident à recruter des jeunes
bien
sur
sûr,
les réseaux sociaux?
Bien sûr, ils regardent, de faire un TikTok dans la tendance du moment, ils vont bien sûr regarder. Par contre, ils vont regarder quoi? Un emploi. Et peut-être donner envie de découvrir un emploi ou une nouvelle qualification.
Alors, est-ce qu'on peut, pour être assez concret avec les gens qui vont être étrangers à ce type de pratique, expliquer comment justement on poste une annonce sur TikTok, comment on poste une annonce sur Instagram?
C'est les agences qui vont déposer sur LinkedIn. Hein, on a la main pour déposer une annonce. Après derrière, c'est de pouvoir aller postuler. Parce que la finalité quand même, c'est de venir dans une agence pour pouvoir faire un entretien.
Il y a quand même le contact physique, enfin le après l'étape numérique qui reste indispensable, c'est-à-dire que le candidat, bah faut le rencontrer, c'est pas juste via les réseaux sociaux.
Oui, alors effectivement, en fait, les réseaux sociaux, c'est un canal qui permet de faire de la sélection de candidatures et permet d'élargir, on va dire, nos bases de données. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de candidats qui ne sont pas présents sur les bases de données.
Aussi.
Et en allant sur les réseaux sociaux, ça nous donne accès à des candidatures qui sont élargies.
À l'inverse, moi, je me demande parfois quand je regarde le nombre de personnes qui ont postulé sur une offre LinkedIn, on a parfois, je sais pas, 5000 personnes qui postulent. Comment font les RH ou comment vous faites vous pour faire le tri là-dedans? Forcément, on va passer à côté de peut-être de profils très intéressants parce qu'on peut pas tout regarder dans le détail.
Alors c'est vraiment la difficulté qu'on a. Si on va partir de l'outil LinkedIn parce que c'est celui qui est le plus professionnalisé pour le recrutement, ils mettent en place des mots-clés. C'est-à-dire que vous allez poser des questions, donc il y a les mots-clés comme vous avez indiqué, mais il y a aussi des questions de sélection. Et vous allez demander aux candidats de répondre à 3, 4, 5 questions très ciblées. Et si les personnes ne passent pas les filtres dès le début, ça va arrêter leur candidature. Mmh. Et ils auront un message de retour disant « vous n'avez pas répondu aux questions, donc on s'arrête là ».
Peut-être que les recruteurs vont aller plus loin que LinkedIn. Est-ce que malgré tout, pour conclure, vous êtes d'accord sur le fait que LinkedIn, ça reste le réseau social de référence pour le recrutement. Le prochain, ça sera lequel? Parmi ceux que vous utilisez, non, il n'y en a pas un où vous dites il y a un potentiel.
Ce qui fonctionne bien voilà, sur la partie, en tout cas, ça reste un outil au sourcing. Hein, c'est pas Facebook ou Instagram qui va recruter. Hein, ça reste le métier professionnel d'un recruteur. Mais je pense que voilà, nous, ce qui fonctionne le mieux, en tout cas, sur les annonces et les retours ou les impressions, ce qu'on appelle les impressions, c'est quand même Facebook.
Et la rencontre. Continuer de se voir aussi,
bien sûr. Exactement. Pour moi, LinkedIn, ça reste quand même aujourd'hui un outil qui est en forte croissance. Vous avez quand même près de 200 millions d'utilisateurs, même peut-être un peu plus en Europe, ce qui est un peu comparable à un Facebook où il y a 300 millions. Donc ça reste un outil très impactant pour nous.
Merci à vous deux. Merci beaucoup, Mickaël Morin, directeur commercial de Promen, Marion Brooke, fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Executive, avec nous aujourd'hui pour parler du recrutement sur les réseaux sociaux.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Le labo RH.
Alors je ne sais pas vous, mais moi, quand je déménage, j'aime bien savoir qui sont mes nouveaux voisins. Pareil, quand on change d'entreprise, j'aime bien savoir qui sont mes nouveaux employeurs. Bonjour Nicolas Marette.
Bonjour Erwan.
Merci d'être là. Vous êtes le fondateur de Cusplay, spécialiste de la gestion des avis consommateurs sur Internet. C'est vous qui gérez le site avissalarié.com. Avoir des avis de salariés quand on cherche une nouvelle entreprise. C'est la promesse de votre site. De la même manière que quand on achète un appartement, on a envie de savoir qui habite autour, savoir si on va pas y avoir du tapage nocturne. Eh ben, votre solution, elle permet aux personnes qui veulent candidater dans une boîte d'avoir les avis de leurs futurs collègues.
Exactement. Avis salarié, l'unique plateforme certifiée par l'AFNOR dans le processus de collecte, de modération et de diffusion des avis clients. On permet aux candidats de s'informer avec des vrais avis et aux ressources humaines de présenter des avis authentifiés et donc de permettre de faire rayonner la marque employeur.
Et il y a une vraie attente dans ce domaine, puisque 9 candidats sur 10 à peu près cherchent des informations sur l'entreprise qu'ils ont envie de rejoindre.
Exactement, et aujourd'hui ils vont sur des sites d'annonces d'emploi.
Il y en a
deux grandes plateformes, mais n'importe qui peut laisser un avis, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de modération, et quelle crédibilité on accorde à un site où n'importe qui peut s'exprimer sur n'importe quelle société.
C'est le grand problème globalement des avis, que ce soit dans le recrutement mais aussi quand on veut acheter quelque chose sur Internet. Toujours le souci de savoir si les avis ont été vérifiés ou pas. Comment vous êtes en mesure de justement garantir cette vérification?
Alors le premier élément, c'est qu'il y a aucun internaute peut laisser un avis spontané, aucun salarié peut laisser un avis spontané. C'est avec les entreprises qu'on sollicite ces salariés. C'est le premier point. Et le deuxième, c'est qu'on va vérifier l'adresse email, les IP, etc. Donc c'est vraiment dans ce processus-là qu'on permet d'authentifier les avis.
On laisse son avis depuis son adresse pro.
Exactement.
Ah oui, très bien. Donc il faut ouvrir un compte, j'imagine.
Alors il n'y a pas besoin d'ouvrir un compte. On a développé des processus simples et fluides pour solliciter l'avis du salarié au bon moment et éviter ce phénomène de minorité bruyante. Vous savez, on est plutôt enclin à s'exprimer quand on n'est pas satisfait. Et notamment si on n'est plus salarié, qu'on a quitté l'entreprise. Donc il y a des règles claires pour faire s'exprimer la majorité silencieuse des salariés derrière et présenter ça en tête des moteurs de recherche.
J'imagine aussi que vous garantissez l'anonymat de ceux qui mettent des avis, parce que on peut être je sais pas moi, très élogieux en espérant avoir une promotion, très critique en espérant faire virer le manager.
Quoi. Exactement, c'est totalement anonyme, évidemment, publiquement, mais vis-à-vis des ressources humaines qui utilisent nos solutions, il n'y a aucune information. C'est évidemment totalement anonyme pour le salarié, ce qui le sécurise et lui permet de dire un avis transparent et de confiance.
Combien d'avis laissés, dans combien d'entreprises, où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur votre plateforme?
Alors, on s'est lancé il y a 2 mois, on a déjà une dizaine d'entreprises et plus de 100 000 avis salariés. Oui, tout à fait. Donc, on est vraiment dans un parcours où les salariés, en étant en confiance, étant invités dans un bon parcours et étant totalement anonymes, sont vraiment dans des volumétries très importantes. Donc, on est très surpris de ces volumétries d'avis.
Ah bah oui, je vous confirme, effectivement, mais ça montre aussi qu'il y a un besoin, il y a une envie d'en savoir plus et d'avoir des avis vérifiés. Je pense que ce côté-là aussi de votre solution, elle intéresse particulièrement.
Oui, tout à fait. Le fait d'être authentifié, de pouvoir s'exprimer de façon transparente et puis de donner des éléments de QVT, la qualité de vie au travail. Donc c'est aussi, on analyse ce qui est dit derrière ce verbatim. On a des outils de compréhension du langage naturel. Et on va donner des clés aux ressources humaines pour améliorer, donner des pistes d'amélioration dans le monde du travail.
Parce que 2 mois d'existence, c'est peut-être encore court, mais est-ce que vous avez déjà le moyen de savoir si ça pousse justement les entreprises à s'améliorer, à avoir des meilleurs avis de leurs salariés?
Oui, tout à fait. On a déjà des pistes d'amélioration qu'on a données pour les ressources humaines. Et puis, on a augmenté 12% le taux de candidature en affichant ces avis sur les espaces employeurs des marques. Eh bien, on a augmenté 12% le taux de candidature, donc des vrais résultats probants et concrets.
Merci d'être venu nous présenter cette solution.
Merci,
Nicolas Marette, fondateur de CustPlace avec nous. Voilà, c'est tout pour Happy Boulot cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour notre dernière émission de la saison. On sera aussi au rendez-vous à la rentrée, bien sûr, ne vous en faites pas. Je rappelle que vous retrouvez ce programme en replay, en podcast. Un sujet vous intéresse, vous continuez de nous écrire. Pour ça, une seule adresse, avec vous à bfmbusiness.fr, avec Happy Boulot dans l'objet. D'ici là, on vous souhaite d'être très heureux au boulot.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.